Première conférence de la journée du 10 juillet 1986.
Comment pouvez-vous dire que le scandale, qui est une violence, n'est pas un mal, quand le Christ dit malheur à ceux par qui arrive le scandale? Il faut faire attention. Je parlais du scandale dans le sens tout à fait propre. L'intelligence est scandalisée quand elle se trouve devant quelque chose qu'elle ne comprend pas. Oui, je parle au plan philosophique. Il faut toujours faire attention par rapport à l'écriture, parce que l'écriture se place d'un point de vue pratique. Le scandale, c'est ça. Je suis scandalisé devant une injustice. Ce scandale est bon. Celui qui n'est jamais scandalisé, c'est un pauvre type. C'est comme celui qui ne se met jamais en colère. Celui qui est tout le temps scandalisé, ça va pas. C'est bien évident. Le scandale en soi, c'est cette attitude de l'intelligence qui ne comprend pas et qui est scandalisée, elle est en suspens. Il y a l'admiration, le scandale. Aujourd'hui, on dit l'angoisse, mais en réalité, c'est l'admiration, le scandale. Comme c'est en face de quelque chose d'admirable que vous ne comprenez pas, vous êtes en admiration. Vous êtes en face d'un mal, d'une injustice. Vous êtes scandalisé. Alors, faisons attention. Regardez le contexte dans lequel Jésus dit ça. Malheur à celui qui arrive le scandale. C'est scandaliser un enfant. C'est tout à fait différent. Vous voyez, c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire du tout que le scandale en soi est mauvais. Ça veut dire que dans telle circonstance, le scandale conduit à faire que l'enfant est scandalisé. C'est très différent, scandaliser un enfant. Là, je prends une attitude, vous voyez, qui est toute différente. Quand j'essaie d'étudier qu'est-ce que c'est qu'au point de vue philosophique, le scandale, c'est l'intelligence qui est en face de quelque chose qu'elle ne voit pas, qu'elle ne comprend pas. Et ce scandale n'est pas mauvais. Tout dépendra de ce que vous en ferez. Mais Camus montre très bien cela dans son point de vue, La Peste, et d'une façon générale toutes ses œuvres. L'homme est scandalisé devant un enfant, l'innocent qui souffre. Le scandale conduit où? À la révolte. Le scandale peut conduire au désespoir. Oui, la conséquence du scandale est mauvaise, là. La révolte et le désespoir. Le scandale peut conduire à un dépassement. Je vais beaucoup plus loin, et puis je me dis, bon, je fais une totale confiance en Dieu. Je ne comprends pas. Mon intelligence est scandalisée. Alors, le scandale, l'intelligence soit scandalisée. Comprenons bien. Ce n'est pas mauvais pour l'intelligence d'être scandalisée. Mais évidemment, le scandale n'est pas le bien propre de l'intelligence. Le bien propre de l'intelligence, c'est la vérité. Mais une intelligence qui cherche et qui est scandalisée, ça lui permettra peut-être d'aller plus loin. Oui. C'est pour ça que c'est assez délicat quand on parle du scandale, mais je crois que c'est très intéressant de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le scandale de l'intelligence. C'est une attitude particulière d'une intelligence qui est comme devant un mur. Elle ne comprend pas. Elle pose un point d'interrogation, mais pourquoi Dieu qui est bon, Dieu qui est infiniment bon. C'était Rostand qui se posait toujours la question. On dit que Dieu est infiniment bon. Et les animaux sont farouches. Ils sont féroces. Oh, c'est des pauvres petits innocents. Comment se fait-il qu'ils se mangent? Comment se fait-il que dans le monde biologique, il y a tant de cruauté? On redit que Dieu est infiniment bon. Alors lui, il dit tout le temps, j'arrive pas à rejoindre les deux. Et saint Thomas souligne que le mal est l'obstacle majeur pour remonter jusqu'à Dieu. Il le dit. Maritain dit que c'est le mal qui s'étale dans notre monde et la souffrance qui est ce qui arrête le plus pour remonter jusqu'à Dieu. Et ceci, c'est vrai, je crois que c'est très vrai, que la souffrance et le mal est constamment quelque chose qui arrête et qui empêche de remonter jusqu'à Dieu. C'est ce que je dis, le scandale, c'est pas commode à le dépasser, le scandale intellectuel, le scandale de l'intelligence. Alors peut-être qu'il faudrait distinguer le scandale de l'intelligence et le scandale du cœur. Et que l'enfant ne peut pas faire la distinction. Et que le scandale du cœur, alors, c'est différent. Vous êtes scandalisé par un manque de fidélité. Vous êtes scandalisé par quelque chose qui ne va pas et qui brise le cœur. Tandis que le scandale de l'intelligence... peut-être quelque chose qui conduit vers quelque chose de plus, tandis que le scandale du cœur, non. Parce que c'est déjà une brisure. J'en reviens encore à la question posée hier. La jouissance est-elle un mal? La jouissance au niveau passionnel. La délectation, comme dira saint Thomas. La délectation, elle n'est pas un mal en soi. Jouir. La délectation est un mouvement passionnel. C'est le bien sensible possédé. Et le bien sensible possédé fait que le petit chat qui ronronne auprès du feu montre bien ce que c'est que la délectation. Faites sur sa tête, sur son front, et il ronronne. C'est admirable de voir un chat ronronner. Il est très heureux. Au moins, on peut dire que là, il y a un animal heureux. Il ronronne. Pas seulement quand il prend une souris, parce que quand il prend la souris, on peut dire, oh, ça, c'est l'irascible. Hein. Un chat qui joue avec une souris. C'est pas drôle. Hein. Il la domine, il veut la dominer. Tandis que quand vous le mettez auprès du feu, et puis que vous frottez sur son crâne, il ronronne. Ça, c'est la délectation, c'est l'image de la délectation. Alors, pour l'homme, pour le jeu, c'est très bien. Il est heureux. Il ne commet pas de faute. Sûrement pas. Il en est incapable. L'homme ne peut pas s'arrêter à la délectation passionnelle. Parce que la délectation passionnelle demande d'être dépassé par un amour spirituel. Quand la passion est trop forte, elle arrête le mouvement spirituel. Elle empêche le mouvement spirituel. On est comme en situation limite. Quand la délectation sensible est trop forte, elle arrête le mouvement spirituel. Et donc, là, elle devient un mal. Parce qu'elle arrête quelque chose de supérieur. Elle arrête l'épanouissement d'un amour plus grand. Et en arrêtant l'épanouissement d'un amour plus grand, elle est quelque chose de mauvais. Donc vous voyez, en soi, la passion n'est pas mauvaise. Mais la passion peut devenir mauvaise dans la mesure même où, par l'imaginaire, passion éveille en nous un amour plus grand. Alors à ce moment-là, elle est au service d'un appétit spirituel. Vous ne vous arrêtez pas. C'est ce qui l'appelle, vous savez, dans le texte de l'Écriture, les soldats de Josué, quand on voit, enfin, les soldats de, oui, pour la prime de Jéricho, on voit très bien les soldats de Gédéon, je veux dire, les soldats de Gédéon, c'est, on va faire une sélection, ceux qui s'arrêteront. Alors, ils se délectent, ils s'arrêtent. Quand on a chaud, c'est tellement délectable de prendre une eau fraîche. Et ça vous arrête. Ça vous fige. Au contraire, ceux qui lavent l'eau, ça prouve qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc, ils ne sont pas engloutis par la délectation. Ils ne sont pas arrêtés par la délectation. Ils peuvent aller plus loin. Donc, vous voyez, le problème de la délectation, comme toujours le problème des passions, la passion en elle-même n'est pas mauvaise. Position d'Aristote et de saint Thomas. Alors que les stoïciens disent que la passion en soi est mauvaise. Mais si vous êtes dans le réalisme, vous êtes bien obligé de reconnaître que la passion en elle-même n'est pas mauvaise. C'est terrible un être qui n'est pas passionné du tout. On a l'impression qu'il est complètement déteint. Il y a des gens vertueux qui sont tellement vertueux qu'ils ont éteint leur passion. Alors, plus possibilité de contact, c'est une loi ambulante. Ah, ils sont vertueux, ils sont intègres, mais ils ne sont pas bons, parce qu'ils n'attirent pas beaucoup. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Mais c'est le formalisme de la vertu qui l'emporte, et ce n'est plus la finalité de la vertu. La vertu est au service de l'amour, d'un amour spirituel, et pour un amour spirituel. Mais quand la vertu éteint, c'est-à-dire quand on ne cherche la vertu que pour la vertu, alors elle éteint, elle supprime l'amour. Et alors à ce moment-là, ça devient quelque chose de terrible. Il n'y a pas grand danger dans notre monde d'aujourd'hui, ça. Ordinairement, ce n'est pas le péché dominant de notre monde d'aujourd'hui. C'était peut-être le péché dominant de Port-Royal. C'est possible. Le péché dominant de l'attitude stoïcienne qui s'exerçait dans certaines éducations chrétiennes. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Toute voile ouverte, plus beaucoup de vertu. Ça, c'est vrai. Dans le temps, quand on entrait en vie religieuse, on recevait des garçons et des filles vertueuses. Aujourd'hui, on reçoit, j'allais dire, des arbres sauvages, merveilleusement, merveilleusement généreux. Avec des, beaucoup de branches, beaucoup de feuilles, c'est merveilleux. Alors il faut tailler. Pour que ça arrive. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait différent. Et ceci, c'est vrai pour la vie religieuse, c'est vrai pour le mariage. C'est pour ça qu'il faut l'auto-éducation. Il faut s'éduquer soi-même. Avant, on était éduqué. Maintenant, on refuse l'éducation des autres. Donc il faut s'éduquer soi-même. On perd un peu de temps. Mais quelquefois, quand on a été éduqué par les autres, ça dominait trop. Alors ça a été nié. Vous voyez des gens qui étaient éteints par une éducation trop sévère. Ça arrive, ça. Alors il fallait réanimer. C'était un phénomène de réanimation au plan spirituel et au plan de la passion. Alors nous allons continuer à regarder le point de vue du mal. Privation. Comprenez bien. Le mal, privation, qui est la raison propre du mal. Qu'il s'agisse du mal qui supprime c'est le mal qui ronge le bien. C'est le mal qui ronge la finalité. L'ordre vers la fin, ce qui me rend parfaitement bon. Donc c'est le mal en opposition vis-à-vis de la finalité. C'est le mal qui s'oppose le plus immédiatement à l'amour. Et non plus à l'avoir. Parce que l'amour n'est pas un avoir. Quand vous dites à un ami, tu es mon ami, tu es mon avoir. C'est pas ça du tout. L'ami n'est pas l'avoir de son ami. Comme elle mettrait en boîte, elle mettait dans un coffre-fort. Ça arrive, il y a des amis qui sont comme ça. Pour être sûr, et puis ils ont le secret de la clé. Pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Alors on le met dans un coffre-fort ou dans un frigidaire. C'est mieux, parce que comme ça, ça ne se gâte pas. Alors on le met dans un frigidaire, l'ami. C'est pas l'ami. L'ami est quelqu'un qu'on respecte comme autre. Donc c'est jamais l'avoir, c'est le bien. C'est très différent. Le bien, c'est toujours ce qui me permet de me dépasser et qui me finalise. On est finalisé quand on découvre le bien. Eh bien, cette seconde forme du mal, qui est l'orgueil, lutte contre l'amour. L'orgueil ronge l'amour. Et quelquefois, nous possédons les deux en même temps et qu'il y a une lutte terrible. Alors, essayons de comprendre quel est le sujet de ce mal, ou plus exactement, comment le mal peut-il naître ? Nous approchons de la cause du mal. C'est un sujet très important et très difficile. Regardez dans les notes de saint Thomas sur le démalot.
L'état d'imperfection, c'est quand, de fait, on ne possède pas toutes les
imperfection. Est-ce qu'un état d'imperfection est un mal? Ah oui, ça va très loin, ça, de dire ça. Parce qu'alors, on dirait que le sujet du mal présuppose le mal. Alors, vous êtes coincé et vous allez remonter à l'infini dans l'ordre du mal. Or, on a dit qu'il n'y avait pas de premier dans le mal.
C'est ce qu'on appelle la matière.
potentialité radicale qui existe dans tout corps physique et dans toute réalité physique. Toute réalité physique implique ce que les philosophes appellent matière. Faisons attention, hein. La matière au niveau philosophique n'est pas ce que les physiciens et les savants appellent matière. Les physiciens auraient dû employer un autre mot, puisque ce mot existait déjà chez les philosophes. C'est toujours très dangereux quand vous empruntez un mot. Dans des techniques ou des sciences qui existent déjà, si vous découvrez quelque chose de nouveau, vous devez employer un nouveau mot. Autrement, vous êtes source de tous les équivoques. Et le jour où on a employé matière, pour signifier autre chose que la nature matière au niveau philosophique, on a commencé à faire de terribles équivoques. Comme les philosophes ont un droit d'aînesse sur les savants, il ne faut jamais l'oublier. Les savants sont venus après. Donc c'est les savants qui auraient dû respecter les philosophes. Et ils ne les ont pas respectés. Parce que peut-être les philosophes étaient dans un état de fragilité particulière où ils pouvaient être agressés par les savants qui, eux, connaissaient une jeunesse tout à fait extraordinaire. Ils n'hésitaient pas donc d'emprunter leurs mots. C'est très curieux ce combat au plan spirituel. Et ça existe tout le temps, ça. Ça existe tout le temps. Et le vol se fait par les mots. On emprunte des mots qui sont déjà connus et qui ont déjà une signification. Alors, je me place au plan philosophique. La matière, c'est le sujet radical qui est pure potentialité. La matière existe, elle n'existe jamais toute seule. C'est l'eau, c'est la terre, c'est le feu. La matière n'existe jamais toute seule. Elle existe toujours avec telle ou telle qualité, telle ou telle forme. La matière est donc ce sujet radical qui permet le devenir. Et le devenir implique toujours deux contraires. Et dans les deux contraires, il y a toujours la privation de l'autre. Forcément, l'opposition de contrariété vient après celle de privation, et donc elle implique toujours la privation. Un contraire envoie promener l'autre contraire, et il implique la privation de cet autre contraire par rapport au sujet. Donc, c'est très important de comprendre que tout le devenir physique, le devenir de notre monde physique, est un devenir qui présuppose la materia prima, c'est-à-dire qui suppose la matière, la pure potentialité. La matière n'est jamais totalement déterminée par telle ou telle forme. Et donc, elle implique toujours une potentialité d'un nouveau changement. C'est pour ça qu'on dira que le devenir physique est un devenir perpétuel. Vous ne pouvez pas limiter ce devenir physique. Ce qui explique aussi que la matière donc du monde physique n'étant pas totalement déterminée par telle ou telle forme, est toujours sujet de nouvelles transformations. Transformation au niveau physique, transformation au niveau artistique. Et c'est quelquefois très difficile de préciser si c'est une transformation artistique ou une transformation physique. Songez à ce que dit Valérie dans Monsieur Test. Vous découvrez désert, un silex. En Palestine, je me souviens avoir découvert comme ça. Un merveilleux silex. Est-ce que c'était un silex taillé? Donc une hache tout à fait primitive. Ou un silex qui naturellement aurait pris cette forme? Vous avez des petits cailloux, des grosses pierres qui, en fonction de l'érosion, peuvent prendre des figures très extraordinaires. L'érosion est un phénomène naturel qui prive la pierre de sa forme primitive et lui donne une forme invraisemblable. Vous avez de ces pierres, vous voyez bien, partout dans les pays de montagne, on trouve ces choses-là. Surtout quand c'est pas du granit, quand c'est des pierres calcaires, extrêmement friables, alors elles prennent des formes très étonnantes. Est-ce que c'est l'homme qui a fait ça? Ou est-ce que c'est l'érosion? Et c'est pas toujours commode de discerner les deux. Ça, c'est très important de noter ça. Parce que notre monde physique est soumis à des influences multiples. Et ces influences multiples modifient notre monde physique. Et notre monde physique, par le fait même, perd sa qualité première. Il y a un phénomène de dégradation progressive. La matière se dégrade parce que la potentialité est plus forte. Elle est substantielle que la forme qui, elle, est naturelle ou artistique. Bon, c'est là où je découvre en premier lieu le mât, en raison de la potentialité de la matière. Notre monde physique, parce qu'il y a cette potentialité radicale de la matière, est un monde qui est voué au mât, à la corruption. Les choses s'usent. Vous avez une magnifique statue de pierre. Vous la mettez dehors parce qu'elle est faite pour être dehors. Parce que l'atmosphère est supérieure à la pierre. Selon les anciens, il y a la terre, il y a l'air, il y a l'eau, la terre, l'eau, l'air et le feu. Il y a une hiérarchie. Je crois que les éléments expriment quelque chose de très radical, très profond, une espèce de hiérarchie dans le monde physique. Et une hiérarchie qui fait que le plus acte peut dégrader ce qui est en puissance. Le feu brûle le bois, pauvre bois. Il n'en peut rien. Si je suis bois, je suis capable d'être brûlé par le feu. Alors, est-ce que c'est naturel pour le bois d'être brûlé par le feu? Oui, le problème du mal au niveau physique. Est-ce qu'il est naturel pour le bois d'être brûlé par le feu? Est-ce que c'est naturel pour une forêt dans les Landes, dans le Midi, d'être brûlé par le feu quand c'est très sec? Après tout, le bois sec, il est fait pour être brûlé. Alors il y a une étincelle qui tombe, c'est pas un trou d'un imbécile, d'un fou. Et puis ça brûle. Évidemment, si tout le monde était prudent, si tout le monde aimait la nature, si tout le monde la respectait, pas d'incendie de forêt. Je crois. Ou bien, est-ce que naturellement ça pourrait brûler, indépendamment d'un aspect artistique, de la petite allumette? Vous savez, le feu nouveau, cette histoire merveilleuse que Hilary Godibe racontait, le grand scout éternel, Hilary Godibe. C'est une chose extraordinaire, mais c'est parce que ça fait partie de ces choses étonnantes. Hilary Godibe racontait, il venait voir un novice dominicain qui était un de ses anciens scouts. Alors Hilary Godibe me racontait qu'avec ses routiers, ils étaient en retard. Alors il dit, ce soir-là, je confie à chacun sa spécialité où il était toujours premier. Or, ce novice, d'origine russe, puisque ça explique pas mal de choses, était toujours premier pour le feu. Elle a dit, ce soir, un feu numéro un, axe métallique, un feu numéro un. Très bien, il s'envoie, il lui donne à chacun. Au bout d'une demi-heure, il revient. Il voit mon type avec deux silex. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, le feu? Mais tu m'as dit un feu numéro un, il faut donc le prendre à la source. C'est excellent. Il faut donc le prendre à la source. Mais la bénédiction du feu nouveau, on est toujours scandalisé du briquet. Et de l'allumette. On devrait prendre deux silex et puis attendre après tout qu'il y ait un feu, une étincelle. Eh bien non, pas du tout, parce qu'on est pressé, on est dans un âge. Alors, on prend une allumette pour allumer le feu nouveau. C'est dégradant. C'est affolant, c'est quoi, pour le feu nouveau, il doit sortir du silex, il doit sortir un feu nouveau. Vous voyez, les silex, c'est la nature. Le frottement des silex peut être naturel. Alors le feu jaillirait comme ça, et dans une forêt. D'où ça vient? Vous voyez, c'est très intéressant de se poser ces questions, qui sont des questions fondamentales. D'où vient le mal dans la nature? Le mal dans la nature vient tout simplement que la matière est fondamentalement indéterminée. Et que n'importe quelle détermination de la matière n'épuise pas la potentialité de la matière. Et donc, toujours, la matière sera source de privation. La matière, c'est le réservoir des privations dans l'ordre physique. Et donc, c'est le réservoir du mal physique. Et même l'art ne peut pas épuiser, la technique ne peut pas épuiser les potentialités de la matière. On voudrait bien épuiser les potentialités de la matière synthétique. On voudrait bien épuiser, on y tend, en disant il n'y a pas de danger, le feu ne peut rien, l'humidité ne peut rien. Et puis on a oublié un facteur, vous savez, dans ces immeubles merveilleux, on faisait des vitres en disant il n'y a pas de danger. Puis on avait oublié un facteur, c'est qu'il y a des étés qui sont particulièrement chauds. Alors il y a une dilatation qui est plus forte que tout, qui fait tout sauter. Vous voyez la potentialité de la matière, c'est extraordinaire ça. C'est que de fait, il y a toujours la possibilité d'une privation. Ça va très loin. Même la vie biologique, elle est liée à la matière. Notre corps, elle est liée à la matière. Or, notre corps étant lié, notre âme étant liée à notre corps, notre âme ne peut pas actuer pleinement la matière, naturellement. Et c'est pour ça que notre corps est corruptible. Et c'est monstrueux d'avoir un corps corruptible. Vous transportez avec vous la saveur de la mort. C'est pas drôle du tout. respect que je dois. C'est votre corps. Et votre corps implique ses cellules très fondamentales. Il est corruptible. Par nature. Par nature, votre corps est corruptible. Par nature, la matière a cette indétermination substantielle.
C'est plus juste de dire fondement de toutes les
arrivait à dépasser la corruptibilité des matières synthétiques. C'est le grand rêve des hommes. D'arriver à faire qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas corruptible. On oublie que s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait que des éléphants sur notre planète, sur notre Terre. C'est un biologiste qui m'a dit ça une fois. J'ai trouvé ça admirable. S'il n'y avait pas la mort chez les animaux, il n'y aurait que des éléphants. Parce que c'est ceux qui vivent le plus longtemps. Ils sont assez méchants, du reste. Ils se défendent bien, celui-là. Il n'y a pas de danger. On ne va pas les mettre derrière des vitres. Parce qu'ils manquent de défense. Ils ont des défenses. D'éléphants. Et c'est ce qui définit l'éléphant. C'est vrai, s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait plus de place. Et c'est naturel, la mort de l'animal est naturelle. La mort de l'homme est naturelle. Alors, quand je dis naturel, au niveau biologique. Mais, alors nous arrivons à l'autre domaine, mais l'homme n'est pas que partie de l'univers. L'homme n'est pas qu'un vivant biologique. L'homme est un vivant spirituel. Il est une personne. Et parce qu'il est une personne, par son esprit, il ne devrait pas mourir. Il n'a pas envie du tout de mourir. Il y a un instinct de mort au niveau biologique. Parce qu'on est lié à la matière. Mais au niveau de l'esprit, l'esprit comme tel, qui est la vie spirituelle, demande de dominer la matière. Donc de dominer la corruption et la corruptibilité. L'esprit qui est en nous ne veut pas la mort. Alors est-il naturel pour l'homme de mourir ou pas ? Posez-vous la question. Question philosophique. Est-il naturel pour l'homme de mourir, puisque par l'esprit, il devrait dominer la matière ? Si son esprit était suffisamment fort, il dominerait la matière. Donc, il ferait du corps une matière synthétique. Incorruptible, au-delà de toute corruptibilité. L'âme spirituelle domine. C'est très curieux et c'est très difficile à répondre au plan philosophique. De savoir au plan philosophique si la mort de l'homme est naturelle ou n'est pas naturelle. Comment se fait-il qu'on a tellement de peine à mourir et qu'on s'accroche à la vie ? Et que plus l'arbre est vieux, plus les racines sont profondes, et plus c'est difficile de le déraciner. Il faut des ouragans. Un petit arbre, une petite racine, ça s'enlève avec une rapidité extraordinaire. Mais un vieil arbre, qui a des racines extrêmement profondes, c'est très difficile de le déraciner. Plus l'homme vieillit, plus la mort est difficile. Parce que plus le lien de l'âme et du corps sont forts, et plus la mort est difficile, l'acceptation de la mort. Donc, plus, j'allais dire, l'âme est victorieuse du corps. Il semblerait qu'en raison de l'esprit, il ne devrait pas mourir. Je pose un problème philosophique. Au point de vue théologique, nous avons très bien la réponse. Au point de vue théologique, la mort est une peine, conséquence du péché. Et c'est vrai, la mort est une peine, conséquence du péché. C'est pour ça que je ne peux pas dire d'une façon absolue mort de l'homme est naturelle. Parce qu'il y a en moi l'esprit qui demande de dominer la matière. Donc au plan théologique, je dirais que la mort est une peine, conséquence du péché. C'est parce que l'esprit n'a plus son pouvoir d'esprit qui est un peu aliéné. L'esprit n'a plus la même force de domination. Alors la mort est une peine. Mais on sait qu'il y aura la résurrection. Et la résurrection n'est possible que parce que justement, d'une certaine manière, la mort n'était pas naturelle. La résurrection d'un éléphant, non. Bien qu'il vive plus longtemps que l'homme. Tu ne peux pas ressusciter un éléphant. C'est contradictoire. C'est contraire à sa sagesse. Tu ne peux pas ressusciter des petits chiens. Vous pouvez peut-être, en disant ça, peut-être que je vous fais beaucoup de mal, parce que vous rêvez d'un ciel dans lequel il y aura des éléphants. Au moins, on pourra s'amuser. On sera sur le dos de l'éléphant pendant toute la journée. Puis, on aura des petits chiens qui seront là. Adorables. L'animal ne peut pas ressusciter. Parce que sa forme, son âme n'est pas spirituelle. Alors laissez, quand les gens veulent à tout prix un ciel dans lequel il y a des petits chiens, des petits chats, laissez-les. Vous savez, il ne faut pas lutter trop contre la dévotion. Vous laissez, c'est de la dévotion. C'est une méta-dévotion. La dévotion pour l'éléphant. Parce que quand ils aiment beaucoup le petit chat, parlez-leur de l'éléphant. Ils l'aiment moins. Non. Ils n'ont pas vu le ciel peuplé d'éléphants. L'esprit de l'homme, est l'autre source de potentialité. Ah, voyez, c'est très beau parce que vous voyez les deux sources de potentialité qui correspond bien aux deux modalités du mal. On commence à comprendre un peu deux sources, ou plus exactement deux fondements, deux conditions sine qua non pour le mal. Parce qu'il y a deux potentialités. La potentialité radicale de la matière et la potentialité de l'âme spirituelle. Dans son intelligence et dans sa volonté. Dans mon intelligence et dans ma volonté, je suis un être qui implique une possibilité de progrès. Je peux acquérir des connaissances nouvelles, des connaissances philosophiques. Après avoir fait des mathématiques dans ma jeunesse, je fais dans l'âge mûr de la philosophie. Pour arriver à la contemplation, ayant fait des sciences dans ma jeunesse, je commence à faire de la philosophie à partir d'un âge mûr. Pour essayer de comprendre, je progresse dans mon intelligence. Et quand mon intelligence progresse, elle montre qu'il y a en elle une potentialité. Je ne suis pas né avec des idées parfaites. Dans mon berceau, je n'avais pas l'idée d'être. Maritaine dit, mais ça c'est difficile à accepter. Peut-être que Maritaine l'a eu. Je ne crois pas que je suis né avec l'idée d'être. La vieille idée de Rosmini, que Maritaine reprend. Descartes aussi est né, lui, avec l'idée d'infini. Il y a des gens, on devrait mettre ça sur le berceau des enfants, il est né avec l'idée d'infini, il est né avec l'idée d'être, il est né avec l'idée du bien, il est né avec l'idée de... Non. Je crois qu'un enfant est capable de développer son intelligence. t'attira tabula rasa. C'est-à-dire un tableau noir, ou un tableau blanc, ou un tableau lumineux, sur lequel n'est rien inscrit. Et que progressivement on acquiert des concepts, des idées. On acquiert cela. Il y a toujours une potentialité radicale qui demeure. On peut toujours progresser. On ne peut jamais dire c'est suffisant. Un mathématicien qui est mordu par les mathématiques peut progresser indéfiniment. Un philosophe qui est mordu par la philosophie peut toujours aller plus loin. Il découvre tout le temps. C'est ça qui est merveilleux. Et pour Aristote, c'est à partir de 45 ans qu'on devient métaphysicien. Heureusement que la grâce nous mûrit plus vite. Alors on peut dire que pour un chrétien, à partir de 17 ans, pas dans le berceau, mais à partir de 17 ans, il peut être métaphysicien. Il peut avoir un sens de la philosophie. Pour Aristote, c'était 45 ans. Bien qu'il soit grec, mais il était païen. Il n'avait pas la grâce. La grâce mûrit notre intelligence. Et dès que nous prenons conscience que nous sommes croyants, notre intelligence est mûrie. Elle sait qu'elle est faite pour Dieu. Ça, c'est la maturité de l'intelligence. Elle sait qu'elle a un ordre merveilleux qui dépasse tout. L'intelligence, au point de départ, est en pure potentialité à l'égard des formes intelligibles. Et c'est à cause de cette potentialité radicale de l'intelligence que l'intelligence est capable d'erreur. Des erreurs existent dans le monde des intellectuels. Ceci provient de la potentialité radicale de l'intelligence. Si l'intelligence était parfaitement déterminée par des idées innées, elle ne pourrait pas errer. Or c'est un fait, hein, que les hommes errent, qu'une errance chez les savants, chez les philosophes, chez les brahmanes. Parce qu'il y a une potentialité radicale dans l'intelligence. L'intelligence peut subir des influences. L'influence du milieu dans lequel elle doit se développer. Elle peut subir des influences, bonnes ou mauvaises. On sait, aujourd'hui c'est un fait, comment des sectes peuvent très bien polariser une jeune intelligence. Ce qui montre bien que l'intelligence est capacité d'être déterminée. Si l'intelligence était parfaitement déterminée, il n'y aurait pas de secte. Mais il ne faut pas qu'à cause des sectes, l'enseignement soit supprimé. Il ne faut pas qu'à cause de l'influence mauvaise, l'influence bonne disparaisse. À côté des écoles, à côté des sectes, il peut y avoir des écoles. Des écoles qui soient bonnes. Des écoles où on enseigne, on essaie d'enseigner la vérité. C'est vrai qu'on subit les influences, comme le monde physique. On subit les influences. Mais il y a en nous